tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'Europe doit se préparer à un automne plus dur avec une hausse des nombres de morts du Covid-19. L'avertissement est signé de l'Organisation mondiale de la santé alors où plusieurs pays imposent de nouvelles mesures ciblées pour contrer une deuxième vague de la pandémie, notamment en Angleterre avec l'entrée en vigueur aujourd'hui d'une stricte limitation de rassemblement. Et puis de son côté, Israël a décidé de se reconfiner à partir de la fin de la semaine.
L'actualité à l'étranger, toujours en Russie où l'opposition a enregistré hier plusieurs victoires symboliques à l'issue des élections régionales.
Oui, puis c'est également en Russie que le président belarusse Alexandre Loukachenko doit être reçu aujourd'hui par Vladimir Poutine. Nous nous rendrons également directement sur le front des incendies aux États-Unis. Et ce, alors que le président Donald Trump, accusé de nier le rôle du changement climatique dans cette catastrophe environnementale, se rend aujourd'hui en Californie.
En France, à présent, l'actualité, c'est encore bien sûr l'épidémie de coronavirus.
Et notamment avec la résurgence de clusters dans l'enseignement supérieur. Nous nous intéresserons également au sort d'Alinéa devant le tribunal de commerce aujourd'hui, avec un millier d'emplois en jeu. Et puis l'invité de la rédaction, dans une vingtaine de minutes, nous recevrons Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et porte-parole de La République en marche. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
La question de la jeunesse, génération Covid, une génération sacrifiée. On en parle avec nos deux invités, le philosophe Michael Fossel et le rédacteur en chef de l'Obs, Sylvain Courage, en partenariat avec nous aujourd'hui.
Merci et à tout à l'heure. Quand la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, tant redoutée dans le monde entier, devient en partie réalité hier. Et pour la première fois, le terme a même été officiellement employé en Autriche, où depuis ce matin, les masques, déjà obligatoires dans les supermarchés, les transports, le seront également dans tous les magasins et bâtiments publics. Au Venezuela, là-bas, les autorités ont décidé que les cours à l'école en présentiel ne reprendraient pas avant 2021. À Jakarta, en proie à une forte aggravation de l'épidémie, trois mois après la levée des restrictions, un nouveau confinement, du moins partiel, est entré en vigueur aujourd'hui. Puis Israël, deuxième pays au monde ayant enregistré le plus de nouveaux cas de contamination au cours des deux dernières semaines, a donc décidé de se reconfiner, et ce pour au moins trois semaines. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors ce reconfinement ne débutera en réalité que vendredi, veille du nouvel an juif. Concrètement, cela signifie que les écoles, mais aussi les restaurants, les centres commerciaux, les hôtels devront fermer leurs portes. Des restrictions de déplacement seront également imposées. Et tout cela dans l'espoir donc de juguler cette seconde vague. Étant entendu, Frédéric, que le couvre-feu, déjà en vigueur dans une quarantaine de villes, n'a pas empêché donc le taux d'infection dans le pays d'exploser.
Non, ni le couvre-feu, ni les consignes du gouvernement. Beaucoup d'Israéliens n'ont pas porté les masques, n'ont pas respecté les mesures de distanciation physique, notamment dans les villes arabes ou chez les juifs ultra-orthodoxes. Alors, vous l'avez dit, tout ce confinement, ce reconfinement va commencer vendredi à 14h, mais beaucoup d'Israéliens ne font plus confiance aux consignes du gouvernement. Sur les trois mois de première vague, il y avait eu 300 morts. Depuis trois mois, la deuxième vague en a fait 819, le triple. Je vous propose d'écouter Debbie, une Israélienne que j'ai rencontrée dans une librairie de Jérusalem. Elle estime que rien n'a été anticipé.
In Israel, there's now...
En Israël, il y a le maintenant et le plus tard, et maintenant, nous voici au jour de fête, et soudain, le gouvernement se réveille et réalise qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus, donc il décide de tout fermer. Mais s'il avait un tout petit peu réfléchi avant, peut-être qu'on aurait évité ça.
David, le libraire, devra théoriquement fermer boutique, car il est considéré comme un commerce non essentiel, mais lui, comme beaucoup d'autres, fera tout pour garder sa minuscule boutique ouverte.
Les gens ont toujours besoin de livres, surtout pendant le confinement. Vous ne pouvez pas tout le temps regarder la télé. C'est une situation difficile. On va essayer de rester ouvert, on va prendre les précautions, un seul acheteur à la fois, et on offrira un bon service aux clients.
Tout cela alors que débutent les grandes fêtes juives, Soukhot, la fête des cabanes dans trois semaines, Kippour, le grand pardon dans deux semaines, et ce week-end Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, que chacun devra fêter chez soi. Les Israéliens sont déçus, certains sont en colère. Hier soir, des dizaines de manifestants ont tenté en vain d'empêcher Benjamin Netanyahou de s'envoler pour Washington. Il doit y signer demain les accords de paix entre Israël, les Bahreïn et les Émirats arabes unis.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Alors cette fameuse deuxième vague a aussi déferlé au Royaume-Uni. Vendredi dernier, plus de 3500 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays, soit le pire bilan quotidien depuis le 17 mai. D'où de nouvelles mesures. Depuis ce matin, il est interdit de se réunir à plus de 6 personnes issues de foyers différents. En Angleterre, cette restriction s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'exception toutefois des écoles, des lieux de travail, des mariages ou des funérailles. Et puis à partir de demain, ce sont toutes les rencontres entre amis ou famille qui seront interdites à Birmingham, la deuxième ville la plus peuplée du Royaume-Uni. Et puis, l'actualité outre-Manche, aussi évidemment toujours et encore la saga du Brexit. Au terme d'une semaine de crise avec Bruxelles, le gouvernement britannique risque d'aborder cette nouvelle semaine avec une nouvelle poussée de fièvre au sein même, cette fois-ci, de son propre camp. Les députés sont en effet appelés cet après-midi à se prononcer sur le projet de Boris Johnson de revenir sur l'accord encadrant la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Or, la séance s'annonce agitée, tant les critiques fusent, y compris donc dans la majorité conservatrice, face à ce qui apparaît comme une violation assumée du droit international, risquant d'affaiblir la voix de Londres sur la scène internationale. Autre négociation en cours difficile pour le vieux continent, parce qu'ils n'en finissent plus de déchanter, après avoir nourri durant un quart de siècle l'espoir de voir le plus grand marché du monde s'ouvrir et se réformer. Les Européens ont engagé des discussions pour parvenir d'ici la fin de l'année à un accord sur les investissements et le commerce avec la Chine. Un sommet a été convié en ce sens aujourd'hui. Alors, pandémie de coronavirus oblige, la rencontre se fera finalement par visioconférence. Une rencontre virtuelle donc, mais sur fond de tensions croissantes bien réelles. Celles-ci, en clair, les 27 souhaitent que leurs entreprises bénéficient en Chine des mêmes conditions que celles offertes aux firmes chinoises dans l'UE, des règles de concurrence équitables. En somme, une tâche qui s'annonce d'autant plus compliquée que les Européens ont prévu de profiter de ce sommet pour évoquer les autres sujets qui fâchent, du réchauffement climatique au sort des Ouïghours, en passant par la situation à Hong Kong et Taïwan. Face aux problèmes économiques accentués par la pandémie, mais aussi une réputation de clientélisme, beaucoup s'attendaient à ce que les élections locales organisées tout le week-end en Russie s'annoncent plus difficiles que d'ordinaire pour le Kremlin. Et de fait, même si les candidats du parti du pouvoir, Russie Unie, qui domine la vie politique, ont remporté la majorité des sièges en jeu, l'opposition a tout de même réussi à revendiquer quelques victoires symboliques. Claude Brouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Alors, il se trouve que cette année, l'affaire Navalny aura bien sûr largement plané sur la fin de la campagne électorale. Et c'est ainsi que tous les regards étaient tournés vers deux élections municipales en particulier. L'une organisée à Novosibirsk et l'autre à Tomsk, c'est-à-dire à l'endroit même où l'adversaire numéro un du Kremlin avait non seulement enquêté sur la corruption des élites locales, mais là aussi où il faisait campagne lorsqu'il a été empoisonné. Et dans ces deux localités, Claude, eh bien, l'opposition a pu revendiquer des victoires symboliques.
Oui, vous savez, Thomas, on parle parfois de la difficulté que peuvent avoir les Russes qui nourrissent des sentiments très critiques vis-à-vis du pouvoir fédéral ou des pouvoirs locaux d'ailleurs, de ne pas aller jusqu'au bout de leurs opinions à l'occasion de scrutins électoraux en choisissant de ne pas voter finalement contre les représentants de ces pouvoirs-là. Eh bien, hier à Tomsk et à Novosibirsk, loin de Moscou, donc en Sibérie centrale, à 4000 km à l'est de la capitale, ces Russes-là sont allés au bout de leur logique en décidant de soutenir les candidats, vous l'avez dit, proches d'Alexeï Navalny, cela même que l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, était venu donc soutenir il y a 3 semaines, juste avant d'être probablement empoisonné à Tomsk. Il ne s'agit que de 2 postes en conseil municipal, mais combiné à la redistribution des cartes localement, cela signifie que le parti présidentiel Russie Unie perd de son influence sur place. Leonid Volkov, le bras droit d'Alexei Navalny, qui s'était à son tour déplacé là-bas la semaine dernière, évoquait déjà une mobilisation, une prise de conscience localement, pour que cesse notamment la corruption sur place, pour que les pensions des retraites soit réévalué pour que les opposants ne soient plus sous pression permanente. Après, il faut dire aussi que ces élections partielles ont surtout été marquées par des victoires de gouverneurs régionaux représentants du pouvoir central et par de nombreux cas de fraude destinés justement à bloquer les candidats de l'opposition.
Et puis l'autre actualité chez vous, Claude, c'est bien sûr la visite à Moscou aujourd'hui du président biélorusse au lendemain d'une énième mobilisation à Minsk qui a réuni des dizaines de milliers de manifestants, ce qui signifie évidemment qu'Alexandre Loukachenko arrive très affaibli. Que faut-il attendre de cette rencontre? Est-ce que Vladimir Poutine pourrait notamment, Claude, chercher à exploiter la vulnérabilité politique de son voisin?
Alors, on dit officiellement, la rencontre se tient en tête-à-tête, c'est une réunion de travail, c'est la communication du Kremlin qui parle. Il faut comprendre par là que, de toutes les façons, officiellement, il n'en sortira que du positif, alors que la réalité est tout autre. Les 150 000 manifestants, hier encore, dans les rues de Minsk, pour demander à nouveau le départ d'Alexandre Loukachenko, rendent le président biélorusse effectivement plus affaibli que jamais, avant d'être reçu donc par Vladimir Poutine. Et c'est exactement ce que voulait le Kremlin, avoir à sa main un Loukachenko qui vient demander du soutien pour tenir encore le pouvoir quelque temps. Mais cette aide sera monnayée au prix fort par l'acceptation du président biélorusse, obligé cette fois d'entériner l'accélération du processus d'intégration économique de son pays à la Russie, en attendant d'autres développements, notamment autour de la question de l'installation d'une base russe sur le sol biélorusse. Et cette fois, Alexandre Loukachenko, devenu totalement infréquentable pour les Occidentaux, ne pourra plus se tourner vers l'Europe pour faire jouer une quelconque concurrence. Reste à savoir maintenant comment les Biélorusses eux-mêmes, dans leur majorité, rarement mal disposés jusque-là vis-à-vis de la Russie, de Vladimir Poutine, vont réagir à cette intégration à marche forcée.
Merci Claude Brouillot en direct de Moscou. Comme attendu au Japon, le parti au pouvoir a élu ce matin et a une écrasante majorité Yoshihide Suga pour devenir son nouveau chef et de facto le prochain Premier ministre en remplacement de Shinzo Abe, démissionnaire pour raison de santé. L'élection à 71 ans de celui qui occupait jusque-là le poste de secrétaire général du gouvernement est considérée comme synonyme de stabilité. Quand le joyau du numérique chinois TikTok échappe à Microsoft, le propriétaire de la plateforme de vidéo légère a rejeté hier l'offre de rachat du géant informatique américain, ouvrant ainsi la voie au groupe de logiciels californien Oracle pour un éventuel partenariat, dans l'espoir donc d'une part d'éviter une interdiction aux États-Unis et d'autre part d'apaiser le gouvernement chinois. Donald Trump est attendu aujourd'hui sur le front des incendies. Le président américain se rend en Californie, l'un des États de la côte ouest ravagés par des feux de forêt d'une ampleur historique et qui ont déjà fait au moins 35 morts. Notre envoyé spécial Benjamin Illy a pu se rendre, lui, dans l'Oregon, au cœur d'une zone dévastée.
Plusieurs quartiers de la petite ville de Talent, 7000 habitants, sont bouclés par les autorités. Le feu n'est pas loin. Turn left. Bon, ça n'a pas été simple. Il a fallu contourner les barrages. On a réussi à rejoindre Talent. L'air est vicié, chargé de cendres. Waouh. Là, on a un lotissement entier rayé de la carte. Tout est en miettes.
Yeah, completely burnt to the
ground. C'est entièrement brûlé, il y a des voitures fondues.
Cars melted,
c'est un voisin, il s'appelle Nick, 35 ans.
Worse than a war.
Pour lui, c'est pire qu'une scène de guerre.
Yeah, hundreds.
Des centaines de maisons perdues.
Hundreds of houses have been lost.
Par miracle, la maison de Nick a été épargnée par les flammes et il refuse de partir.
I'm still here because I'm
je reste ici parce que je protège ma maison. Il y a des rumeurs, des pillards traînent dans le coin.
Voilà,
il y a la police qui circule, hein, beaucoup.
Yes, this is considered a crime scene.
Oui, c'est considéré comme une scène de crime, on ne devrait pas être là. Ils constatent les dégâts et ils cherchent à savoir s'il y a eu des morts ici. Il y a des brigades cynophiles avec des chiens, ils tentent de localiser des corps dans ce secteur. C'est un cauchemar, j'ai été pas préparé à ressentir ces émotions, je suis fatigué, j'ai peur.
Un cauchemar. Thank you so much.
Voilà, reportage dans l'Oregon signé de notre envoyé spécial Benjamin Illy. Alors que l'épidémie de Covid-19 reprend de la vigueur en France, voilà que plus d'une dizaine de clusters ont été identifiés dans l'enseignement supérieur. C'est le cas en particulier à l'université Rennes 1, avec 43 cas de coronavirus recensés ce week-end. Tous les étudiants contaminés sont membres des filières de médecine, de pharmacie et dentaire. La faculté a aussitôt suspendu ses cours en présentiel pour les élèves de deuxième et troisième année. Les malades et leurs cas contacts sont eux placés à l'isolement. Mais surtout, l'enquête sanitaire a permis de démontrer que les contaminations des étudiants ont eu lieu lors de soirées privées. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
En fin de compte, malgré donc les appels à la prudence et surtout à la responsabilité, eh bien un peu à l'image de la société d'ailleurs de manière générale, les cas de contamination se multiplient donc chez les étudiants.
Oui, Rennes, vous le disiez, mais également Nantes, où, ironie du sort, des étudiants en médecine, en deuxième et troisième année, auraient été contaminés pendant une soirée d'intégration regroupant 500 personnes. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, en appelle donc à la responsabilité de chacun, car d'après les premières remontées, une grande partie des contaminations auraient lieu pendant les soirées privées entre étudiants, que ce soit dans les universités ou même dans les appartements, comme l'a constaté Olivier Labou, le vice-président de la conférence des présidents d'université, la CPU.
Des étudiants de 18 ans qui viennent d'avoir le bac, ils imaginent une vie étudiante, et c'est bien normal, avec un lien social fort, des soirées. Les soirées d'intégration sont interdites, mais les soirées privées sont difficiles à maîtriser. Et il semblerait que ce soit davantage sur ce terrain-là que les contaminations se font. On n'a pas de preuves formelles, mais lorsque l'on étudie les cas contacts, ce sont les étudiants eux-mêmes qui disent « oui, on était d'un appartement à un autre, on était à telle soirée ». Et les cas contacts, quand on cherche à les déceler, nous font remonter plus davantage sur ces soirées.
Pour la dizaine de clusters identifiés, la règle et le protocole sanitaire sont simples et stricts. Les universités doivent repasser intégralement aux cours en ligne, au moins pendant 2 semaines pour le groupe d'élèves concernés. Pour éviter une aggravation de la situation, Frédéric Vidal reçoit dès cet après-midi les organisations syndicales étudiantes.
Merci Hakim Kasmi. Alors l'appel au sens des responsabilités face à une dégradation manifeste, c'était justement tout le sens du message délivré vendredi dernier par le gouvernement qui pour tenter d'enrayer un rebond de l'épidémie mise aujourd'hui sur des mesures prises localement plutôt que sur une logique de confinement généralisé. En revanche, aucune nouvelle mesure d'interdiction et en ce sens, eh bien, l'exécutif semble prendre de plus en plus ses distances avec le conseil scientifique sur lequel il s'était pourtant appuyé jusque-là pour légitimer ses décisions. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors faut-il en déduire que l'heure des règlements de compte a sonné ? Seule certitude, Pierre, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, se fait à présent tacler de toutes parts.
À force de répondre aux sollicitations médiatiques pour alerter et expliquer les recommandations du conseil scientifique, son président, Jean-François Delfraissy, agace. Il agace d'autant plus lorsque, la semaine dernière, il annonce « le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les prochains jours ». Avertissement fracassant, on est à la veille d'une réunion du Conseil de Défense. Et c'est peut-être la sortie médiatique de trop. Le lendemain, depuis Ajaccio, Emmanuel Macron recadre le médecin, chercheur, spécialiste des questions éthiques. Le Conseil scientifique est dans son rôle, dit le chef de l'État, mais c'est aux dirigeants démocratiquement élus de prendre des décisions. Et depuis, c'est un véritable tir de barrage. Il y a l'urgentiste Patrick Peloux qui appelle à dissoudre le Conseil scientifique qui ne sert plus à grand-chose, ou encore l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot qui estime ce matin sur France Inter que Jean-François Delfraissy devrait se taire car il fout la trouille aux Français. Ce que l'on constate aujourd'hui, eh bien, c'est toute la difficulté de concilier les préconisations des experts et la décision politique. Si au début de la crise, l'exécutif s'appuyait sur les décisions du Conseil scientifique, il a au fur et à mesure pris ses distances en imposant par exemple sa date de déconfinement le 11 mai dernier contre l'avis des experts. On le voit, chacun impose son rythme, d'autant que la connaissance de l'épidémie évolue avec le temps. Pour Jean-François Delfraissy, si l'exercice d'équilibriste devient de plus en plus délicat, d'autant que les politiques voudraient le cantonner à un simple rôle de vigie, lui va plus loin en reconnaissant les failles du système, le manque de masques, la pénurie de tests et la nécessité d'un confinement total décidé en 3 jours, position qu'il défendra à nouveau demain matin devant la commission d'enquête sénatoriale qui reprend ses auditions sur la crise sanitaire.
Merci Pierre Neveu. C'est aujourd'hui que le tribunal de commerce de Marseille doit dire s'il accepte ou non la seule offre de reprise déposée pour le spécialiste de l'ameublement Alinéa en redressement judiciaire depuis le mois de mai. La décision sera connue en début d'après-midi et, sauf surprise, elle devrait être validée puisqu'elle sauvegarde près de 900 postes. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors, un cas un peu particulier. Anne-Laure, cette offre unique de reprise a été en réalité déposée par les propriétaires de l'enseigne eux-mêmes.
Oui, les deux actionnaires d'Alinéa, Alexis Mullier, l'actuel dirigeant qui détient 15% des parts, et une holding de la famille Mullier qui détient les 85% restants. Cette offre propose de ne reprendre que 9 magasins sur 26 et 865 salariés sur environ 1900. Un millier de suppressions de postes donc à venir dans cette enseigne d'ameublement avec des reclassements proposés notamment chez Auchan qui dépend du même groupe et qui vient par ailleurs d'annoncer un plan social. Mais les syndicats dénoncent des propositions de postes inadaptées, pas d'emploi de caissière mais des postes hautement qualifiés, directeurs de magasins ou contrôleurs de gestion. Des reclassements sont aussi annoncés chez Decathlon ou Leroy Merlin, d'autres enseignes de la galaxie Mullier, sans plus de précision pour l'instant, déplorent les syndicats.
Et puis cette offre de reprise suscite évidemment de nombreuses questions, Anne-Laure.
Oui, la direction a-t-elle profité du contexte de la crise du Covid pour imposer à Alinéa une cure d'amaigrissement avec au passage un effacement des dettes de la société? Il faut préciser qu'une ordonnance publiée pendant l'état d'urgence sanitaire simplifie grandement la procédure de rachat d'une entreprise en dépôt de bilan par ses propres dirigeants. Pour l'avocate représentant les salariés, tout ça permet à la famille Mullier de faire des économies et de ne pas pas assumer personnellement la responsabilité de ce plan social. Le groupe Mulier souligne de son côté que sans son offre, la marque disparaîtrait, oui. Mais les problèmes de l'enseigne sont anciens, estiment les représentants des salariés. Selon eux, des mesures préventives auraient pu être prises il y a bien longtemps afin d'éviter aujourd'hui ce terrible gâchis.
Merci Anne-Laure Jumet. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Creuse. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie. Bonjour. Première question, monsieur Moreau, nous évoquions tout à l'heure les attaques de plus en plus nombreuses portées contre Jean-François Delfraissy. Est-ce que vous êtes de ceux qui se désolidarisent aujourd'hui du président du Conseil scientifique ?
C'est-à-dire que le président du Conseil scientifique doit rester à sa place, qui est de d'éclairer le politique sur les actions à mener et sur les choses à faire concernant les mesures à prendre par rapport au Covid. Et le fait qu'il s'exprime avant même d'avoir communiqué avec l'exécutif pose sans doute un certain nombre de soucis.
Question de Rosalie Lafarge.
Monsieur Moreau, La République En Marche a fait sa rentrée à Amiens en fin de semaine et ça a commencé par l'élection du président du groupe à l'Assemblée. Christophe Castaner l'a emporté avec 25 voix de plus qu'Aurore Berger. C'est peu. Est-ce que ça ne montre pas l'ampleur des divisions au sein de ce groupe ?
Non, je ne crois pas. Moi, ça ne vous a pas échappé. Je soutenais effectivement Aurore Berger durant cette campagne. Maintenant, l'heure est au rassemblement. C'était une différence, non pas sur le fond, non pas sur la fidélité au président de la République, qui est totale, que ce soit pour Aurore Berger ou pour Christophe Castaner, mais sur une approche, sur une des personnalités qui sont différentes. Maintenant, l'heure est au rassemblement et les Français, à l'heure où la crise du Covid, on voit bien, est en train de s'amplifier, à l'heure où on a un plan de relance à discuter au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas le temps de se regarder le nombril. Maintenant, l'heure est au rassemblement, à tous se regrouper autour du président du groupe, autour du mouvement, pour avancer dans l'intérêt de la France et des Français.
Alors, au-delà du groupe, il semble y avoir quand même quelques tensions dans la majorité au sens plus large. Je pense au Modem, des députés marcheurs rejoignent le groupe centriste et ça fait grincer des dents dans vos rangs. Est-ce que vous redoutez d'autres départs dans les jours, les semaines qui viennent ?
Alors, c'est un serpent de mer. Depuis pratiquement le début de ce quinquennat, on a des départs individuels par groupe de 2-3. Bon, on a même eu un groupe qui s'est créé, EADS, à l'Assemblée nationale, avec un certain nombre de députés issus de nos rangs. Donc, c'est possible toujours qu'il y ait des départs. Maintenant, les derniers départs qui sont effectués vers le Modem sont, je vais le dire, moins inquiétants que les autres, puisque ces députés restent dans la majorité. Ils changent juste de groupe. Sans doute n'avaient-ils pas trouvé leur place au niveau du groupe, qui est certes encore nombreux aujourd'hui, c'est le groupe pivot au niveau de la majorité, et donc ils ont été vers des groupes un peu moins nombreux où ils pensent pouvoir trouver un peu plus facilement leur place. Maintenant, ils restent dans la majorité et c'est ça l'essentiel.
Alors cette majorité au sens large, on nous dit, vous nous dites qu'elle a vocation à se rassembler, à se structurer aussi. Jean Castex, le Premier ministre, appelle à la création d'une maison commune pour l'ensemble des forces qui soutiennent le président. Derrière la formule, qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a la possibilité de travailler en intergroupe. Il y a d'ailleurs une réunion de groupe demain matin, je crois, qui va inaugurer un peu ce travail intergroupe avec Agir, avec le Modem, avec l'ensemble des groupes qui se sont identifiés comme faisant partie de la majorité présidentielle. L'essence même d'En Marche, c'est le dépassement des clivages. C'est d'être capable de faire discuter ensemble des gens qui viennent d'univers différents, qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. Donc on continue dans cette logique-là. On va avoir Territoire de Progrès, qui est le groupe de pensée qui est derrière Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian aussi, qui va être rassemblé. Et le but maintenant, c'est de travailler tous ensemble dans l'intérêt de la France et des Français et dans l'optique de 2022.
Alors vous parliez de l'intergroupe parlementaire. Je voudrais revenir sur cette maison commune. François Bayrou, le patron du Modem, il dit pas non à l'initiative, mais enfin, il pose ses conditions assez franchement. Il vous dit d'accord, mais d'abord, entendons-nous, respectons-nous. Jean-Baptiste Moreau, ça n'a pas l'air gagné quand même, cette maison sur le papier.
C'est pas un travail facile, hein, ça on le sait très bien. Les jeux de parti et c'est ce qui a, on va dire, structuré la Ve République depuis sa création. Donc les jeux partisans effectivement surpassent bien souvent l'intérêt national. Donc maintenant c'est à nous d'arriver à dépasser ces clivages partisans et effectivement à respecter les uns et les autres avec leurs spécificités. Mais En Marche, ça n'a jamais été pas une seule tête qui dépasse. C'est la capacité de discuter ensemble et de d'avoir des avis différents, de les confronter, mais de se ranger à l'avis majoritaire et surtout d'agir dans l'intérêt, de prendre les mesures qui sont bonnes pour le pays. Et c'est ça tout l'enjeu de ce regroupement des différents mouvements et des différents partis.
En cette semaine de rentrée au Parlement, il y a déjà plusieurs projets de loi qui promettent quelques tensions, encore au sein des marcheurs. Je pense aux néonicotinoïdes, par exemple. Est-ce que vous ne redoutez pas d'afficher encore un visage un peu divisé ?
Je vais être responsable de texte sur ce texte. Évidemment que ça va être assez clivant puisque on revient sur une mesure assez emblématique au niveau environnemental. Maintenant, ce qu'il faut prendre, il faut prendre conscience et ça doit nous faire réfléchir sur ce que l'on doit faire à partir de maintenant. C'est quand on inscrit ce type de mesure dans la loi, mais qu'on ne se donne pas les moyens d'accompagner les filières, d'accompagner les acteurs, ça reste une lettre d'intention, sauf qu'on met dans la difficulté un certain nombre d'acteurs au risque même de détruire certaines filières qui ont des enjeux d'emploi derrière, qui ont des enjeux évidemment d'aménagement du territoire aussi, parce qu'il y a certains territoires aujourd'hui où si vous supprimez l'activité betteravière, vous allez avoir une déshérence énorme au niveau économique et au niveau de la population. Donc voilà, il faut éviter de faire des lois dogmatiques, il faut préférer une écologie de solutions et une écologie d'incantation.
Merci Jean-Baptiste Moreau, député et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à nos confrères de France Bleu Creuse, ainsi qu'à Rosalie Lafarge. On termine avec un mot de météo globalement sec et ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Quant aux températures encore en hausse, elles afficheront entre 30 et 38 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.